radio, une appli connectée à notre région.
Passez un bon début de soirée à l'écoute d'ici, il est 22h. Ici, soirée spéciale Daniel Balavoine, 40 ans après sa disparition. Jusqu'à 23h, écoutez le feuilleton « Je ne suis pas un héros » réalisé en 1996.
Mais Dieu que l'amour est triste, la vie, j'arriverai.
France Inter, le 28 décembre 1982.
Il faut avoir envie de le faire, c'est quelque chose qu'on peut simplement avoir très fort envie de le faire et que c'est déjà extrêmement stimulant, chose qui n'est pas suffisante pour plein d'autres épreuves. Je veux dire que si demain je veux faire un rallye du championnat de France, c'est impossible, c'est infaisable. Je veux dire que les spéciales qu'il y a là-dedans, ce sont des spéciales de 12-13 km, comme il y en aura peut-être à Olivet, ici au Garrigue dans le Paris-Dakar, mais c'est les deux seules qu'il y aura de ce genre-là, où c'est vraiment du pilotage au plus haut niveau, justement. Et là, c'est des choses auxquelles on ne peut pas accéder, alors que le Dakar, c'est un ensemble de choses. Il y a les pièges, il y a la chance, il y a la route, il y a se perdre, il y a plein de choses qui interviennent là-dedans, qui font qu'il y a en plus la forme du terrain qui fait que même les plus forts peuvent casser les voitures et que finalement les moins forts, à force d'être raisonnables, peuvent finir par passer devant. Je veux dire que les frères Marot ne sont pas les meilleurs pilotes du monde.
Ah, ça, Daniel Balavoine avait l'énergie d'un futur vainqueur du Paris-Dakar quelques jours avant le départ. C'était son premier rallye qu'il a effectué comme navigateur. Son pilote, Thierry Deschamps, n'a pas pu éviter que la voiture casse, contraignant le chanteur à l'abandon dans les toutes premières étapes. Daniel reviendra dans la course 2 ans plus tard, mieux préparé, avec à ses côtés le pilote et journaliste Jean-Luc Roy. Cette année-là, ils termineront la course.
Grâce à sa notoriété, bien sûr, on avait trouvé un sponsor. Il avait trouvé un sponsor qu'il avait amené dans l'équipe. On était intégré à l'équipe Toyota à l'époque. Bon, on aurait dû au départ avoir une voiture beaucoup plus performante que celle qu'on a eue, ce qui n'est pas grave du tout, évidemment, avec le recul, mais ce qui, à un moment, nous a bien embêtés, parce que, bon, je pense que peut-être qu'on a un peu pensé que c'était assez bon pour le journaliste et le chanteur d'avoir cette voiture-là. Donc, on a eu une voiture qui était très moyennement performante, qui était très lourde, très volumineuse, pas très puissante, mais qui était très solide, par contre, et avec laquelle on a donc pu aller au bout. Et en fait, les problèmes qu'on a eus, c'était des problèmes inhérents au tracé de cette année-là. Puisque c'est la première année où on a traversé le Ténéré au Cap, uniquement. C'est-à-dire pas de piste, pas de balise, rien du tout, uniquement au Cap. Donc là, Daniel s'est tout de suite révélé un excellent navigateur, parce qu'il a pris les choses très très à cœur, vraiment très professionnel. Il en a beaucoup parlé avec déjà avant de partir, il a suivi des cours de navigation, ainsi de suite, pour faire le point, pour comprendre les cartes et tout. Tous les soirs, il traçait avec d'autres navigateurs soigneusement cette carte, cette première carte.
Qui fait le mal, qui fait le bien? Une grande question récurrente à laquelle tenter de répondre relèverait de la philosophie de fin de banquet. Il n'empêche, la question reste en suspens. Pour Daniel Balavoine, même s'il avait un sens aigu de la justice, même s'il préférait agir et expliquer ensuite, il fut bien obligé de répondre à la polémique qui occupait les médias à l'époque. Le Paris-Dakar, organisé par Thierry Sabine, était-ce une course digne ou un étalage de richesses futiles qui traversait la misère dans le désert? Jean-Luc Roy, le pilote de Daniel, et Claude Sérillon n'ont pas la même opinion sur le sujet.
Ça apporte plus à l'Afrique que ça ne lui retire, encore une fois. Parce que si le Dakar n'était pas passé au Mali, par exemple, ou au Niger, le problème des Touaregs, qui en parlerait? Depuis que le Dakar n'y va plus pour des raisons de guerre et de zones troublées, qui en parle? Personne. Alors, faut pas se tromper, le Dakar, c'est une épreuve sportive. Ça n'a pas toutes les vertus, loin de là. Il y a des critiques à formuler, mais je crois que ça permet au moins de donner un coup de projecteur. Quand on a été en Guinée en 84, on était les premiers à aller en Guinée. Le pays était fermé au monde extérieur depuis 23 ans. C'était une dictature très dure, etc. Thierry avait réussi à nous y emmener. En Mauritanie, pareil. Donc, il faut pas non plus se tromper d'objectif. Mais Thierry appréciait, et Daniel y était sensible aussi, ce côté, je dirais, un petit peu ambassadeur du Dakar, et coup de projecteur et aide à des régions déshéritées. Ça a fait l'objet de discussions, de nombreuses discussions entre Thierry et lui. Et bah, en rigolant, Daniel appelait Thierry Baden Powell ou chef scout, ou c'est normal, parce que c'était évidemment le capitaine de la colonne qui avançait. Il y a pas de secret. Mais d'un autre côté, encore une fois, Daniel a eu conscience, en étant venu voir le rallye, qu'il apportait beaucoup plus à l'Afrique qu'il ne lui prenait, et qu'il y avait aucune discussion là-dessus.
Le Paris-Dakar est toujours une interrogation pour moi, parce que comment on a pu monter une telle opération publicitaire, gigantesque, de déploiement médiatique, avec des gens qui se fichaient complètement de ce qu'était l'Afrique. Alors que Daniel, lui, était à contre-courant de ça, qu'effectivement, il ait fait attention, qu'il ait cherché à faire parler des différents pays africains ou des gens qu'il avait rencontrés, sans doute. Mais moi, je sais qu'en parallèle, j'avais quelques activités avec Médecins Sans Frontières ou autres associations. Moi, ça me dérangeait, ça me choquait beaucoup, ce passage vrombissant dans les déserts et ces populations. Donc, on a eu au moins une conversation dont je me souviens très bien avec lui là-dessus, quoi. Donc, lui, il avait en fait un besoin d'apprendre, et il s'est servi, c'est sans doute ça sa grande intelligence. C'est qu'il s'est servi sans doute d'un mauvais prétexte pour le transformer en, une démarche d'intelligence. Souvent dans la vie, la fin justifie les moyens, donc je pense que au bilan, c'est largement positif.
Savoir que ce qui lance des regards pour ces
1996, François Génie racontait Balavoine avec ceux qui l'ont connu. Ce soir sur votre radio ici, Archives et Souvenirs.
Je ne suis pas... Mais Dieu que l'amour est triste.
Daniel Balavoine s'était engagé, tout le monde le sait, engagé dans la vie, avec toujours cette lucidité qui lui dictait sa route. La misère dans le monde, et plus particulièrement en Afrique, est immense. Un homme seul ne peut rien. Des milliers sont un peu plus efficaces. L'essentiel pour lui était que les gens prennent conscience que la solidarité est vitale. Après le grand concert Band Aid à Wembley en 85, où il s'était rendu en compagnie de Jean-Jacques Goldman et Michel Berger, il participe à l'organisation du concert pour l'Éthiopie à la Courneuve. Avec le Paris-Dakar, il créera les Paris du Cœur, et pour sensibiliser les enfants dans les écoles françaises, il s'engage dans Action École. Mais comme pour tout le monde, la prise de conscience peut naître par hasard. Pour Daniel, ce sera lors de son premier Paris-Dakar en 83, où dès Limoges, il est disqualifié pour casse mécanique. Claire Balavoine.
C'est lui qui a pris la décision de continuer au-delà de Limoges, parce qu'il y avait effectivement un attrait de ce continent qui était très fort. Et il a pris donc le temps, il a suivi l'itinéraire de la course sans faire la course. Et c'est vrai qu'il s'est trouvé dans des villages où il a vu des gamins à quatre pattes qui bouffaient des mouches, quoi. Et ça vous laisse pas intact, quoi. Soit vous court-circuitez tout, vous oubliez, soit un jour ça revient en surface. Vous dites, bon, je manque de pas grand-chose, je jouis d'une certaine notoriété, pourquoi pas la mettre au profit de ces gosses-là, comme disait Coluche, qu'ils soient de la Corrèze ou du Zambèze, c'est pareil, quoi. Un môme a droit à un minimum de décence dans la vie. Et c'est sûr que Daniel, ça a dû boucler la boucle de toutes les préoccupations qu'il avait par rapport à l'injustice élémentaire dans le monde entier, surtout au niveau des enfants qui sont par définition sans parole, sans défense, sans recours. Quand Daniel a repris la décision de faire un second Dakar, ils ont un bivouac à Tombouctou en 85, et ils étaient tous en train de finir de casser la croûte en pleine nature. Et puis ils ont vu des gosses qui sont venus leur demander à manger à 11h, minuit le soir, quoi.
L'enfant séché sur le sol d'Érythrée, l'être tiré, tire un trait sur cette terre aride et ridée dont il a hérité.
Après la découverte de l'Afrique, Daniel comprend que le Paris-Dakar peut être un outil extraordinaire au service d'une cause humanitaire. Il s'adresse alors à Thierry Sabine pour le convaincre.
Et puis avec Thierry, ils ont commencé à en parler et ils se sont dit que la logistique était très importante et qu'ils pouvaient utiliser cette logistique pour faire quelque chose, quoi. Au début, ils ne se supportaient pas tous les deux. En fait, je pense qu'ils étaient habités par les mêmes sensations, les mêmes regards, puisque très peu de temps après, ils sont tombés dans une communion d'idées et de décisions, de moyens à utiliser. Et la première chose qu'ils se sont dites, bon, on va aller les voir au cœur de leur existence et leur demander, bon, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire pour vous aider à vous en sortir? Quelles sont les priorités? Et nous, on va voir ce qu'on peut faire.
Je crois qu'il y a une chose qui l'a frappé, là je peux parler de notre rallye en 85, c'était de voir des gens au bord de la piste qui nous demandaient de l'eau.
Jean-Luc Roy.
On s'est arrêté un paquet de fois pour en donner, bien sûr on en a un certain volume, et pas au-delà, et même jusqu'à en donner, à ne plus en avoir. C'est le cas de le dire, c'est une goutte d'eau dans la mer. Et là, il s'est rendu compte que c'était un vrai problème, l'eau en Afrique, d'une part, un problème pour les gens qui ont soif, mais un problème aussi de culture. Parce que le fleuve Niger est tellement long, tellement puissant, que si on arrive à le cultiver sur le bord de manière raisonnable, on arriverait à donner à manger à toute la population de l'Afrique de l'Ouest, mais sans problème. De là est née l'idée des pompes à eau qui permettent aux gens d'avoir un auto-fonctionnement. Si on leur fournit ces pompes avec le mode d'emploi, en leur expliquant, en choisissant les sites avec des ingénieurs agronomes, etc., ils vont pouvoir s'auto-alimenter, ce qui est quand même le but, leur permettre de vivre décemment et de survivre là où ils sont.
On essaye d'expliquer aux enfants que les raisons de cette aide ne doivent pas être forcément des raisons de cœur ou des raisons d'idéal. On commence à leur présenter ça sous la notion de nécessité et de survie. Pas pour les gens de là-bas, mais pour aussi les gens d'ici. La question posée aux gosses est simple, c'est: voulez-vous hériter d'un monde comme celui-là? C'est-à-dire d'un monde où il y a chaque année entre 15 millions et 20 millions de gens qui meurent de faim et plus d'un milliard de gens qui cherchent à bouffer. Donc, on leur dit, si vous le faites pas pour eux, faites-le pour vous et pour vos gosses à vous, parce que c'est une question de survie. Dans quelques années, si ces peuples-là sont exterminés par l'économie et la politique telle qu'elle est conçue, il n'y aura plus personne pour acheter nos produits. Donc on y met une notion plus vulgaire, plus réaliste, une notion d'intérêt. Et je crois que les mômes qui ne sont pas encore influencés par la désinformation sont à même de présenter ça après à leur entourage de manière différente.
Baiser d'amoureux, baiser langoureux, que le monde est malheureux. J'avais rêvé si fort d'un autre décor pour ma mort. J'ai voulu t'emmener pour une lune de miel au San Salvador. Et te faire l'amour en parlant liberté au milieu des morts, en comptant les corps. Mais Dieu, que l'amour est triste. Fermant les yeux, toutes les choses sont dangereuses. Quand le rêve s'endort, il n'y a plus de conquistador. On n'a jamais raison de vouloir parler trop, surtout quand on a tort. Ne pas dire que l'amour est ce qu'il y a de plus fort, car la vie bouge encore. Quand un amour est mort, mais Dieu, que l'amour.
Ce soir, votre radio ici rend hommage à un grand nom de la chanson française, Daniel Balavoine. 40 ans après sa mort, nous diffusons une archive exceptionnelle réalisée en 1996 avec tous ceux qui l'ont connu.
Mais Dieu que l'amour est triste, la vie.
Un peu soupoulé comme on l'est tous dans cette région. C'est-à-dire que quand on est en désaccord, on s'est souvent quitté en se traitant de gros cons et de petits chanteurs de merde. Mais
Jacques Durruty.
Ça durait 5 minutes, et puis 5 minutes après, il me rappelait où je le rappelais, et puis il était quand même un gros con. Hein, mais enfin bon, on n'est pas fâché, non, au revoir, merci. Mais ça, c'est quelque chose qui est notre façon de fonctionner ici.
Il avait des fois un langage un petit peu rude, qu'il ne contrôlait pas. Mais il ne le contrôlait pas, il se rendait compte qu'il avait commis une erreur. À la télévision, il a eu 2 ou 3 fois des remarques et des... que je n'approuvais pas. Alors là, à ce moment-là, il le savait. Il le savait parfaitement. C'était presque lui qui m'appelait pour me dire « Léo, je sais, vous allez m'engueuler, j'ai encore fait une connerie aujourd'hui. »
Léo Missire, le producteur de Daniel Balavoine. Balavoine choque. Il est taillé dans un seul bloc, sans concession. La révolte n'est pas une image qu'il reproduit à l'infini. Non, sa révolte est celle d'un homme trempé dans le refus de l'injustice. Ah, ça, il en parlait de l'injustice. Il disait « Je suis un enfant de la crise, cela se traduit dans ce que je fais ». En mai 68, adolescent, il entend les leaders de la révolte étudiante à la radio. Il dit alors « J'ai compris ce qui leur manquait. La musique et la gaieté. Provocation ». En octobre 83, dans l'émission télévisée 7 sur 7, il s'emporte contre la guerre et les anciens combattants. Il déclenche des protestations très violentes. « Je me suis fait piéger », avouera-t-il. Dire ce que l'on pense, comme ça vient, il ne peut pas s'en empêcher. Le 19 mars 1980, il est invité dans le journal d'Antenne 2 Midi. Ce 19 mars, Claude Sérillon était sur le plateau.
Il y avait un invité qui était un peu le rédacteur en chef inattendu du journal, et puis il y avait d'autres personnes autour d'une table, donc on était plusieurs. À l'époque, moi je faisais la revue de presse, et Daniel était l'une des personnes autour de la table. Et à ses côtés, il y avait François Mitterrand surtout. Tout ça se faisait de manière, je dirais, très habituelle à la télévision. On me posait des questions, il répondait, il prenait son temps. 13h20, 13h25, 13h30, et Balavoine commence à s'impatienter, nous regarde comme ça, dans tous les sens. Je me souviens de détails comme ça, Mitterrand est habillé de son très célèbre costume de velours de l'époque, qui lui donnait un côté homme politique rural, donc on parlait très tranquillement. Et Balavoine était en cuir. J'ai une boucle d'oreille et les cheveux comme ça, puis il s'agitait pas mal, quoi. Et au bout d'un moment, il a interrompu tout le monde en disant « Bon, écoutez, ça commence à faire chier. Moi, vous m'avez invité. Faut voir si les jeunes peuvent parler dans cette émission. Toutes vos histoires de politique et de classe politique, on n'a plus rien à foutre. Il faudrait quand même... Enfin bon, je vous restitue ça à peu près comme ça de mémoire. » Il l'a dit beaucoup plus violemment.
Je m'en fais de vous avoir parce que je suis fier d'être là. Je peux vous le dire. On s'en aperçoit peut-être pas, mais vous pouvez pas imaginer ce que c'est pour un jeune d'avoir la possibilité de parler une minute. C'est pour ça que j'avais peur de pas pouvoir parler. J'ai peut-être du culot de faire ça. Je suis obligé de le faire comme ça parce que je dois faire vite. Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère. Elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui. Elle ne croit plus en la politique française. Et moi, je pense qu'elle a, en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisé. Et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux. Et que ça entraîne le terrorisme, la bande à Bader et des choses comme ça. Et ça, il faut que les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autres solutions.
Et alors, le souvenir aussi que j'ai, c'est qu'ensuite, ils sont partis déjeuner ensemble. Et je sais qu'ensuite, Daniel a raconté, c'était formidablement bien passé. Ils avaient discuté et tout. Mitterrand était un charmeur. Donc, il avait dû... succomber au charme de Mitterrand.
Coup de gueule, coup de colère. Balavoine sait que son caractère ne se corrigera pas. Au-delà du tout médiatique, il saura utiliser son énergie sur le terrain, en Afrique, loin des caméras alors qu'il apporte les premières pompes à eau. Face aux difficultés administratives africaines, il montera une fois de plus au front. Claire Balavoine.
Et Daniel avait décidé, sachant les détournements antérieurs qui avaient été pratiqués par les autorités locales, régionales, ils ont dit on ira dans chaque village nous-mêmes apporter les motopompes, on les donnera au chef de village. Et c'est comme ça qu'ils étaient à Gao, où ça coinçait, où il y avait le gouverneur qui voulait que le Paris-Dakar leur donne les pompes et qu'eux les amèneraient décider. Et Daniel est allé pousser sa gueulante, son ultime gueulante, au gouvernorat de Gao, pour leur dire que ou les motopompes iraient dans les villages avec eux, ou alors monteraient en France, mais ne seraient jamais confiées aux autorités. Ça, c'était à la faveur de la tempête de sable et tout ça qu'il a pu le faire.
Quand les canons résonnent comme pour annoncer le mauvais temps, les femmes frissonnent et sous leurs jupons cachent les enfants. Elles prient la madone, blessent leurs genoux en suppliant. Mais qu'est-ce qu'elles leur donnent en échange de leur dévouement? Sur leur visage ruisselant, espérant la maldonne, elles frappent leur poitrine en défilant, pieusement questionnent: est-ce que disparu veut dire vivant? Faut-il qu'elles pardonnent pour croire que leurs morts ne sont qu'absents?
Chaque jeudi que Dieu donne, accident. Près des canons qui résonnent, des femmes au regard bouleversant, défilent inlassablement.
Ici, soirée spéciale Daniel Balavoine, 40 ans après sa disparition. Jusqu'à 23h, écoutez le feuilleton « Je ne suis pas un héros » réalisé en 1996. Je ne suis pas...
Mais Dieu que l'amour est triste. Juste un peu d'ivresse et beaucoup de chagrin. Regarder le monde et admettre qu'on n'est presque rien. Faire un peu le vide et tendre la main.
La recette n'existe pas. Pour faire un disque, l'émotion est le premier carburant. Daniel Balavoine savait que tricher sur l'émotion conduit à l'échec. Mais comme il ne savait pas tricher, il avait bien compris qu'une chanson sur galette est faite à partir d'un cocktail détonnant. Un doigt de talent, trois doigts de technique, cinq mesures de travail et 8 litres de sueur. Rajoutez à cela une pincée d'imprévu. Et l'émotion doit trouver son chemin dans le mélange. Quoi qu'il en soit, il est vital d'être précis. Et ça, Daniel le savait aussi. Jean-Luc Roy, son ami, a assisté à quelques séances de studio.
On va tourner, on a peur ou on est bon là? You okay, Andy? Un, deux, yep.
Jouer. Moi aussi, j'ai participé aussi, regarder à des enregistrements de disques dans des studios à Boulogne, je me rappelle, en y passant la nuit, où il travaillait, et là aussi, bon, c'est vrai que c'est chacun dans son métier, on essaie d'être le meilleur possible, mais c'était aussi un travailleur acharné, parce que reprendre le même truc sans arrêt, parce que c'est pas tout à fait ça, on y revient, c'était carrément démentiel. Il avait un ingé son, d'ailleurs, dont le nom m'échappe maintenant, mais qui était un véritable génie, Andy Scott. Mec génial. Oh là là là. Là, c'est pareil. Là, moi, j'ai appris. C'est vrai que j'ai écouté de la musique autrement. Déjà, à commencer par ses disques à lui, mais aussi d'autres, en me disant chapeau, quoi. Pour que ça passe et pour qu'on ressente les trucs, c'est vraiment. Il n'y a pas de hasard. Hein. Tout est travaillé au millimètre.
C'est un perfectionniste, même, dirons-nous. C'était un perfectionniste parce qu'il était, amoureux fou de Peter Gabriel, vous savez, et de Phil Collins.
Léo Missire.
Alors, il connaissait parfaitement le travail de studio d'enregistrement, comme on commençait à le faire en 32 pistes. C'était avec des instruments nouveaux, tels que le Fairlight et tous ces instruments-là. Il était très, très, très perfectionniste. Moi, personnellement, je vous dirais que ça commençait à m'ennuyer un petit peu, justement. Parce que là, d'un seul coup, on passait une journée entière sur un seul son, c'est vrai. Alors, on commençait par la batterie, et pendant toute la journée, j'entendais boum, 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 non, ça va pas, boum, 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 ça va pas. Bon, la grosse caisse, la batterie, la cymbale, et tout ça pendant toute la journée. Et j'étais là, je me disais, mais où il veut en venir exactement? Alors que lui savait parfaitement où il voulait en venir.
Oh,
Jean Botterel, journaliste au Figaro.
Les deux fois où je l'ai vu sur scène, donc et je suis allé avant, bon, tout était, il contrôlait tout. Ça, c'est un. Mais il avait cette voix, comme il avait cette voix un peu à la fois des douce aiguë. C'est quelque chose de, je sais pas comment la définir, sa voix, elle est douce aiguë. Alors c'était marrant de voir ce personnage extrêmement volontaire, marquant son territoire, donnant facilement des leçons. C'était quelque chose, ce Balavoine, en fait.
Quand on allait en concert en province, par exemple, moi j'ai pu mesurer ce que c'était que ça, que les fans. Moi je suis pas un fondu de concert, à part pour les gens que j'aime vraiment beaucoup, et j'ai jamais été groupie, par exemple. Mais là, c'est vrai que, bon, c'est un monde complètement, effectivement, c'est hallucinant de voir les gens qui attendent à la fin du spectacle une heure, deux heures, par la petite porte derrière, juste pour lui dire trois mots et tout, etc. Après, on va bouffer dans un petit resto, dans un coin, dans la ville, et il y a encore des gens qui attendent dehors, qui savent qu'il est là, etc. C'est complètement hallucinant.
Le parcours du combattant chanteur à succès est complet. Séance de studio harassante, course-poursuite avec les fans en guise de chasseur, et palais des sports avec la vedette en dompteur. Pas de repos, 7 jours sur 7. Épuisant. Claire Balavoine.
Il finissait toujours ses palais des sports un dimanche. Et le dimanche, le spectacle était à 17 ou 18 heures. Hein. Donc, toute voix a besoin d'une récupération. Bon. Et en commençant 3 heures plus tôt, la voix n'était pas là. Donc, il prévoyait quand même de se faire faire au cas où, parce que quand il se réveille le matin, c'est rien, plus rien, de faire faire un synactène, enfin un truc qui permet de bien revasculariser, bien faire. Et donc, la veille, il me disait, bon, tu te souviens, tu viens à telle heure, bon, je me réveille à 8 heures, il faut que tu viennes à 8 heures et demie, petit déjeuner, tu fais le truc et tout, bon. Eh bien, le dimanche matin, téléphone de bonne heure, on s'était couché quand même tard, parce que lui se rentrait tôt, mais moi je me couchais un peu plus tard, tout de même, j'avais le droit de faire la java. Et allô, à la Claire Fontaine, tout ça. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ben voilà, t'entends ma voix, t'arrives. Je dis, mais attends, quelle heure il est? Mais oui, mais dépêche-toi, arrive, tout ça. Bon, là, l'angoisse le prenait quand même, parce que quand il se réveillait, c'était encore un petit peu enroué. J'arrivais, petit déjeuner, tout ça, on rigolait comme des fous, je fais sa petite piqûre tranquillement. Et puis après, ça y est, dès qu'il commençait ses vocalises tranquillement, et ça allait.
Comme un fou rageux. Je dessine à l'encre vide un désert. Et je cours, je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent. Comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Difficile d'appeler. Tous les cris des SOS
1996, François Geny racontait Balavoine avec ceux qui l'ont connu. Ce soir sur votre radio ici, Archives et Souvenirs.
Mais Dieu que l'amour est triste.
Autre réaction, c'est à la sortie du Conseil des ministres. Alain Calma, le ministre des Sports, a appris la nouvelle. Je suis complètement bouleversé, a-t-il déclaré. Je suis effondré.
Daniel Balavoine, en un mot, un chic type, comme l'a dit Michel Sardou, que Jacques Vendroux a joint par téléphone au Festival d'Avoriaz.
Daniel Balavoine, tout le monde le sait, connaît le personnage que c'était. Il avait un cœur énorme, il était engagé complètement à fond sur beaucoup de choses. Il était entier, il adorait l'aventure aussi. Il voulait rencontrer tout le temps d'autres gens, d'autres choses, connaître surtout. Donc ça, vous le saviez, il le disait, il le répétait, il le disait souvent.
Le 15 janvier 1986, au matin, la nouvelle tombe sur toutes les radios. La veille, Daniel Balavoine est décédé dans un accident d'hélicoptère près de Tombouctou, au Mali. Dans l'hélicoptère, avec Daniel, se trouvaient Thierry Sabine, le pilote François-Xavier Bagnou, le mécanicien Le Fur et la journaliste Nathalie Audan. L'émotion et l'incompréhension gagnent tous les proches. Que s'est-il passé ce 14 janvier vers 20h lors de la deuxième étape spéciale du jour, alors que la tempête de sable fait rage? L'un des derniers témoins n'est autre que Jean-Luc Roy, le pilote et ami de Daniel. En 1986, Jean-Luc suivait le Dakar comme journaliste.
L'hélico s'est bel et bien posé à 21 km exactement de l'arrivée, à Gourmaraous. Thierry a arrêté, s'est mis en travers de la piste et a arrêté Pierre Lartigue et Bernard Giroux pour leur dire qu'il était impossible de continuer parce qu'ils n'y voyaient rien, parce que la visibilité était nulle, et il leur demandait de renvoyer une voiture. Et puis, pour des raisons qu'on ne connaîtra malheureusement jamais, l'hélico a redécollé, et l'hélico s'est servi d'une voiture de course pour essayer de s'en servir avec les feux rouges qui sont sur le toit comme guide. Ce qui n'était pas idiot, en raisonnant à froid, parce que ça donne la direction et la hauteur. Le problème, malheureusement, c'est qu'à un moment, ils roulaient, on va dire, à 70-80, donc dans cette purée de poids où ils n'y voyaient rien. À un moment, ils ont dû lever le pied sans freiner, parce que dans le sable très mou comme ça, si on lève le pied, c'est comme un frein à main qu'on tire. Immédiatement, on perd énormément de vitesse. L'hélicoptère est malheureusement passé devant, parce que lui étant très proche, puisqu'ils entendaient avec les casques et la radio dans la voiture, ils entendaient très bien le bruit de l'hélico. Donc il était au-dessus, derrière, très proche. L'hélico s'est retrouvé devant par ce fait, puisque la voiture a ralenti brutalement sans que ce soit prévisible. Et le pilote a eu, je pense, ce qu'on appelle une perte de référence dans ces cas-là. Et il n'y avait pas de colline, comme ça a été écrit ou dit, absolument pas. Il y avait simplement un petit épineux. L'hélico a peut-être perdu les 3 ou 4 mètres qu'il avait par rapport au sol. Il a peut-être accroché l'épineux, peu importe, et il est parti en tonneau par l'avant. Et immédiatement, il a explosé. Mais dans un premier temps, les deux occupants du Mitsubishi n'ont pas pensé que c'était un accident. Ils ont pensé que c'était une fusée qu'envoyait l'hélicoptère pour leur montrer le bon chemin.
Paris Match, janvier 86. Florence Aboulker, la première productrice de Daniel, écrivait « Tu disais tout le temps dans quelle galère on s'est encore plongé. Je me demande si tu n'avais pas inventé ce mot, la galère. La dernière fois que je t'ai vue, c'était au printemps, il y a peu d'années. Tu venais de rencontrer Corinne, tu étais fier d'être amoureux. Ce soir-là, je t'ai vu heureux. Tu n'aurais pas dû nous mettre dans une telle galère. Cette mort-là, la tienne, elle reste en travers de la gorge. » Florence Aboulker.
J'ai eu un coup de téléphone de Match. Très brutal, comme ça, me disant Daniel Balavoine vient de mourir dans un accident d'hélicoptère. Il faut que vous nous fassiez un papier pour demain matin. Donc voilà, j'ai beaucoup pleuré et j'ai écrit en pleurant. J'étais...
Au journal télévisé sur Antenne 2, c'est un ami de Daniel qui est chargé d'annoncer sa mort. Le journaliste Claude Sérillon.
C'est un exercice, si j'ose dire, très, très difficile, quoi, très affectivement compliqué, parce qu'il faut le dire à des millions de gens, parce que vous le ressentez d'une manière très personnelle. Mais quand vous connaissez la personne, c'est très compliqué. C'est très difficile parce que, je vous dis, il n'y a pas de raison de cacher son émotion. Et en même temps, c'est une information, malheureusement, comme il y en a plein. Et puis, chaque jour, il y a des décès, des machins. Donc, il faut arriver à le dire, il faut arriver à le faire ressentir, à faire comprendre que la fin d'un bonhomme comme lui, c'était la fin d'une aventure, d'une idée, d'une série de paroles, de quelque chose qui pouvait marquer, qui correspondait à une génération, à des... Voilà, donc c'était ces souvenirs un peu émouvants, là, comme ça, mais c'est banal de dire ça.
Petite foule danse autour d'un corps s'endormant. Douceur immense pour le départ.
Danser, buvez,
Ce soir, votre radio ici rend hommage à un grand nom de la chanson française, Daniel Balavoine. 40 ans après sa mort, nous diffusons une archive exceptionnelle réalisée en 1996 avec tous ceux qui l'ont connu.
Je ne suis pas... Mais Dieu que l'amour est triste, la vie.
Chaque génération se cherche un guide. C'est tout naturel. Une sorte de repère qui, grâce à sa notoriété, peut crier tout fort ce que tout le monde pense. Génération Balavoine. S'il prenait son rôle au sérieux, ce genre d'appellation le faisait rire. Dans la vie quotidienne ou sur les ondes, dès qu'il avait quelque chose à dire, eh bien, il le disait. Quitte à s'en mordre les doigts peu de temps après. Léo Missir, son producteur.
Il n'y a rien de calculé chez lui. Je vous dis, quand il y a eu Mitterrand qui s'est présenté pour la première fois comme président de la République, il m'a appelé au moins 10 fois chez moi pour me dire « Léo, j'espère, vous m'avez promis que vous alliez voter Mitterrand ». Je lui ai dit « Mais je te l'ai promis, je te l'ai dit, je vais le faire ». Un an après, il a été complètement déçu. Complètement déçu. Mais il était de la même façon où il voulait absolument. Il a toujours été entier, si vous voulez. C'était pas fabriqué, tout ce qu'il racontait. Après, il a été déçu, il me dit, alors là, vous voyez, si ça devait recommencer, je ne vous aurais pas dit la même chose.
...1983, un dimanche électoral comme un autre. Daniel Balavoine est invité sur France Inter. Pour les journalistes, il est un bon client, comme ils disent. On sait qu'avec lui, la langue de bois sera débitée en allumettes.
Il faut maintenant que je prouve ma sincérité, et j'en éprouve le besoin.
D'accord.
Voilà, j'en éprouve le besoin. Ça veut dire que, tout en continuant à faire mon métier, en menant la vie que je mène, il faut que ma vie soit de plus en plus conforme aux idées que je prétends avoir. C'est ça, la fin de la boucle. Ça veut dire que, si je prétends vouloir combattre pour les droits de l'homme, eh bien, je dois être activiste et je dois effectivement m'en occuper. Je trouve que déjà d'en parler, même dans les salons, c'est déjà quelque chose. Plus on en parlera, plus les gens seront concernés. Alors, d'autres diront il fait ça pour sa publicité. C'est vrai que ça fait ma publicité, je ne le renie pas. Mais cela dit, si je n'étais pas qui je suis en ce moment, celui que je suis en ce moment, je ne pourrais pas d'abord le dire et ensuite on en parlerait beaucoup moins. Vous comprenez, tout ça va de pair. Alors je ne vais pas m'arrêter de parler sous prétexte que je pourrais être soupçonné de le faire pour mon propre compte.
Il est intervenu à un moment où ma génération, qui est la génération des gens qui avaient 18 ans en 68...
Claude Sérillon, journaliste et ami.
Cherchait des motifs de réflexion, des motifs d'analyse, des motifs d'engagement. Et que il a correspondu à un moment donné parfaitement bien à ce qu'était la génération de cette génération-là en France, quoi. Hein, à la fois par ses textes et puis par ses coups de gueule et puis par sa capacité de faire bouger les choses. C'est peut-être d'ailleurs, bon, c'est toujours difficile à dire, mais c'est peut-être une des choses qui manque le plus en ce moment.
Je veux juste être libre et savoir le pourquoi.
Chez lui, une certaine gravité. C'était pas un homme.
Jean Botorel, journaliste au Figaro.
Qui jouait quand il parlait de la chose publique. Et ça j'avoue que il y avait une vraie morale chez Balavoine. C'était quelqu'un qui pressentait ce qui se passe aujourd'hui dans les banlieues. Il avait un vrai regard là-dessus. Il parlait de ça avec ses tripes. Le chômage avait considérablement augmenté. Or, c'était des choses qu'il avait totalement dans la tête. Il avait une approche qu'on peut qualifier d'idéaliste de la vie politique.
Comme vous disiez, je peux difficilement m'échapper, quoi. Je n'ai pas le choix.
Claire Balavoine.
Mais bon, je crois qu'il avait accepté très vite. Et le fait d'être devenu public n'a fait que décupler cette puissance qu'il avait en lui. Même s'il se défendait d'être le porte-parole de quoi que ce soit, il était d'abord de lui-même et il se trouvait que beaucoup de gens avaient envie de dire les mêmes choses, quoi. Sauf qu'il n'en avait pas les mêmes moyens. Mais lui s'en privait pas, il ne forçait personne. Mais ce qu'il disait souvent à des journalistes, moi, si je dis ce que je pense, c'est parce qu'on me donne la possibilité de le dire. Et voilà, tout simplement.
Ainsi s'achève notre journée spéciale Daniel Balavoine pour marquer le coup des 40 ans de sa disparition le 14 janvier 1986. L'intégrale de ce feuilleton « Je ne suis pas un héros » est disponible gratuitement sur ici.fr et l'application Radio France. Bonne soirée à l'écoute d'ici et promis, nous continuerons à diffuser tous les jours les grandes chansons de Daniel Balavoine.
Ici, le Crédit Mutuel donne le la à la musique.
C'est quoi le film qui a marqué votre adolescence? Le premier disque que vous avez acheté?
L'AREF, le podcast de Valérie Damido, à écouter et à regarder en vidéo.
Eh bien, Franck Dubosc, c'est un ado des années 70. Comme vous, comme moi, en tout cas. Ensemble, on passe ses revues, ses rêves, son admiration pour Belmondo, ses vacances au camping et ses premières déceptions amoureuses.
L'AREF.
L'AREF. Bref, Franck Dubosc est mon invité dans l'AREF.
L'AREF, le nouveau podcast ici.
À écouter sur l'appli Radio France ou à regarder sur YouTube.
Ici.
Et c'est...